50,9, Mitterrand 49,1. Je répète, Giscard 50,9.
François Mitterrand est élu président de la République.
Cinquième président de la Ve République, Jacques Chirac, 50%.
Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix.
C'est Nicolas Sarkozy qui est élu président de la République avec 53% des voix.
Moi, président de la République, 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 moi, président de la République.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tous Politiques, l'émission politique de Transistor. Pour ce troisième numéro, je suis en compagnie de Maxime, de Pierre et de Rémi. Bonjour à vous trois.
Bonjour.
Bonjour Mathias.
Bonjour Mathias.
Aujourd'hui au programme, Pierre nous donnera son avis sur le principe des primaires en France. Maxime nous parlera de Donald Trump et des algorithmes. Je ne sais pas encore ce que ça va donner. Ensuite, je quitterai ma casquette d'animateur pour vous parler de l'actualité brûlante des affiches de campagne de prévention SIDA. Et enfin, nous terminerons avec l'humeur de Rémi, qui nous parlera du prochain président de la République. Suspense.
Bah non.
Et sans plus attendre, je passe la parole à Pierre. Bonjour Pierre.
Bonjour Mathias.
Je suis scandalisé de ce que je viens d'entendre.
Je suis souple dans mes baskets.
Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre.
Je vous ai compris.
Dimanche dernier, des bureaux de vote un peu particuliers se sont ouverts sur tout le territoire français. Plus de 2,5 millions de citoyens avertis et engagés se sont présentés avec deux petits euros pour glisser leur bulletin dans l'urne. Je ne sais pas vous, mais ça me fait tout bizarre de me balader le week-end dans Paris, un banal dimanche de novembre, et de tomber sur des files d'attente fort peu diversifiées à l'entrée d'une école primaire du 12e arrondissement. En tant que citoyen averti, je n'étais pas surpris, je savais que c'était les fameuses primaires pour le candidat Les Républicains au présidentiel de l'année prochaine. Mais quelques petites choses m'ont particulièrement gêné, je dois l'avouer. En premier lieu, je m'étais habitué à suivre des primaires aux États-Unis, pas en France. J'ai appris cette semaine qu'il y a déjà eu une primaire ouverte en France, la première de l'histoire de notre République, en 2011, pour le PS. Il y avait déjà des primaires fermées, pour que chaque parti choisisse son meilleur poulain pour la présidence. Mais ça ne date que des années 90. La première fois qu'une primaire a été faite en France fut en 1995, par le PS. L'idée avait aussi germé à la droite et au centre pour départager Chirac et Destin, mais ce dernier avait mal interprété les sondages et avait retiré sa candidature. En vrai, quand on parle de primaire, la première référence qui vient en tête, c'est les États-Unis. C'est un processus crucial dans leur surmédiatisation des élections présidentielles, dont la campagne dure réellement un an. Avec tous les remous de cette année et la superbe saison 4 de House of Cards, impossible de ne pas voir des images de foule en délire, dans un stade gigantesque avec des discours quasi belliqueux, des coups fourrés et j'en passe. Après, quand on me parle de la primaire LR, j'imagine plutôt une petite salle des fêtes de Leménil-Mitry, des vieux sous l'exomile ou cocaïne en train de se lancer des piques politiquement correctes et Jean-Michel qui s'occupe du décompte. Mais ce n'était pas ça du tout. Des bureaux de vote ont été ouverts dans toute la France, les médias n'ont pas arrêté d'en parler, chaque candidat a sorti toute sa panoplie de campagne et affûté son programme. Ce qui m'a le plus étonné, ce sont les débats organisés par et diffusés sur les chaînes publiques. Je ne sais pas vous, mais le concept même de primaire citoyenne ou primaire ouverte me dépasse un peu. J'ai toujours considéré la sélection des candidats d'un parti comme un choix en interne, comme Poutou pour le NPA ou une décision individuelle, comme pour Cheminade ou Macron. Les médias, surtout le service public, ont normalement un devoir d'objectivité politique. J'ai un sentiment de voyeurisme, surtout avec les débats diffusés par le service public. Bien sûr, impossible de ne pas sentir une forme d'attirance pour les joutes verbales et les mots bas de ces politiciens du même parti qui se bousculent comme dans un panier de crabes. Mais ce n'est pas mon affaire. Je me reconnais dans les valeurs d'un parti, d'un candidat, et je le soutiens. Je ne veux pas avoir étalé devant moi les méandres d'un parti qui ne me plaît pas vraiment plus que ça. J'en ai marre de voir sur Facebook une publication m'invitant à répondre au quiz pour savoir quel candidat LR me correspond le plus, quand je me retrouve avec un plus grand pourcentage de « aucun des candidats ». Sans déconner les gars, on est obligé de parler de ça? Je sais pas moi, c'est comme tout miser sur le deuxième concours blanc d'Hippocagne et de passer 3 mois à ne parler que de ça. Le pire, je pense, c'est que si en 2011, on a eu la chance de n'avoir que le PS, cette année on va scoltiner les primaires de chaque parti. Mine de rien, un parti comme le FN, ça a du bon. Le candidat au présidentiel est son président et puis c'est tout. Et si vous voulez changer de candidat, vous vous débrouillez pour évincer le chef de clan dans un bon vieux combat politico-juridique et aux infos on s'en tient à des petites anecdotes croustillantes. Et puis, pourquoi des primaires citoyennes ? Pourquoi ouvrir des primaires à tout le corps électoral avec comme seule contrainte de dire qu'on se reconnaît dans les valeurs du parti ? Je suis prêt à demander une chocolatine si je veux un goûter à Toulouse. Alors imaginez devant le papier pour voter aux primaires. Je coche même la case qui me demande si j'ai collaboré en 40. Sauf que pour voter, ça coûte pas moins de 14 pains au chocolat. Ou un demi-ticket de métro. Du coup, entre ceux qui se disent qu'il y a un intérêt sincère à aller voter et ceux qui veulent juste foutre la grouille chez l'adversaire, je suis pas sûr d'y avoir ma place. Selon les statistiques d'ailleurs, une 12% des électeurs sont de gauche et une 15% du FN. D'ailleurs, vous êtes allé voter, vous trois ?
Jamais.
Jamais pas.
Non. Jamais entre les repas.
Bah moi non plus. Et pourtant, je suis du centre. D'ailleurs, d'où c'est la primaire de la droite et du centre ? C'est vraiment comme un gamin qui est persuadé que tous les gens qu'il a invités vont venir à sa fête d'anniversaire jusqu'au dernier moment. Ou alors c'est une manière de dire que le centre n'existe plus, sauf chez les Républicains. Avouez que c'est fâcheux quand même. Surtout quand tous les centristes boycottent la primaire. Enfin bref. Je suis contre le principe même de la primaire ouverte. Ça me paraît totalement antidémocratique. De tout ce que j'ai lu et entendu, une chose à retenir. Les gens qui sont allés voter ont voté pour le candidat qui fera barrage à Le Pen et donc qui sera élu. C'est absurde. Une primaire ne doit en aucun cas être une élection présidentielle. Rien n'est écrit.
Je l'avais dit.
Le principe d'une primaire est de choisir son candidat en vue de la campagne à venir. Je ne suis donc pas allé voter parce que je considère que je soutiens un candidat, un parti, et donc que je vais militer en sa faveur face à tout ce que ses rivaux peuvent proposer. Mais en aucun cas je vais m'immiscer dans le choix des rivaux. C'est de la simple magouille politique basée sur des calculs qui ne veulent rien dire. Alors, je m'adresse à vous, chers auditeurs politisés qui nous écoutez, pour vous livrer une petite part de ma vision de la politique. Ne vous laissez pas avoir par cette vision calculatrice et anticipatrice de la politique. Rien n'est écrit. Soyez honnête avec vous-même et vos convictions. Le principe est simple, il suffit de trouver quelqu'un qui vous correspond, rien de plus. Alors allez voter aux primaires républicaines si vous êtes vraiment dans les valeurs de LR, allez voter aux primaires socialistes si vous êtes vraiment dans les valeurs du PS. Si vous soutenez Macron, Poutou, Le Pen, Cheminade, de Lesquin, etc., alors soutenez-le, ou là, militez pour lui, ou elle, défendez vos convictions face à tout ce qui peut lui être balancé. Et si bien sûr vous ne trouvez personne à votre goût parmi les grosses têtes d'affiches médiatisées, penchez-vous sur laprimaire.org, une véritable primaire ouverte dans le bon sens du terme, c'est-à-dire des citoyens lambda qui ont chacun une vision particulière, un programme qui correspond à leurs idées, et surtout aucune affiliation politique. Sauf qu'il faut en élire qu'un seul pour qu'il aille se présenter face au gourou du système partisan actuel. Mais, au fait, voir s'opposer des citoyens avec des idées et une volonté de changer les choses, en élire qu'un seul pour qu'il représente au mieux nos valeurs, ne pas s'attacher à un cadre partisan qui restreint la souplesse de la politique, ce serait pas ça qu'on cherche vraiment dans une élection présidentielle ?
Merci beaucoup Pierre pour cet avis tranché sur la primaire des Républicains, dont le premier tour s'est tenu dimanche soir, et je le rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas, Fillon est arrivé en tête avec plus de 44% des voix, devant Alain Juppé, le grand favori de cette élection, qui n'a même pas fait 30%. Nous traversons tout de suite l'Atlantique, où Maxime va nous parler de Donald Trump, le tout nouveau président des États-Unis, et si j'ai bien compris, de sa relation avec les algorithmes. Peux-tu nous en dire plus ?
Tout à fait particulière.
Je suis scandalisé de ce que je viens d'entendre.
Je suis souple dans mes baskets.
Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre.
Je vous ai compris !
Bon alors, la dernière fois que j'avais parlé des Amériques sur un plateau transistor, je vous avais dit que j'aimais beaucoup les surprises. Les surprises. Eh ben, je pense que on peut dire à présent qu'on a été gâtés. Hein. Personne ne l'a vu venir, celle-là. Hein. Non, personne. Même ceux qui ont voté républicain au début du mois, je suis pas sûr qu'il l'ait vu venir, puis même Donald lui-même, tellement sa campagne, quand même, par moment, ça ressemblait vachement à de la remontrance de futurs mauvais perdants. Mais bon, je suis comme les Simpsons et la comète de LA, hein, je vous l'avais bien dit, un multimilliardaire, ça trompe énormément. Voilà, vous riez tous, s'il vous plaît. Merci, merci. Bon, alors, qu'on s'accorde. Calmement, hein. C'est une surprise que j'accueille un peu froidement. Même si, dans le fond, il y a un côté qui te ragaillardit. Tu t'es levé ce 9 novembre, tu t'attendais à ce que le monde continue de tourner pas rond comme avant, et puis là, on t'explique, en réactualisant fébrilement une page dont les résultats sont déjà définitifs, que, en fait, non, c'était encore rien. Non, tu vois, avant, ça tournait pas rond, maintenant, on sait même plus comment ça tourne. Personne n'y comprend plus rien. En tout cas, même les petites voix paternalistes et rassurantes des articles de presse ne peuvent pas vraiment te sortir la petite explication classique. C'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Et ben, en ce matin du 9 novembre, la presse a fait un premier pas dans le dévoilement à elle-même de sa propre ignorance. Donald nous l'a mise sur la voie de la maïotique, et ça, franchement, c'est presque beau. Bon, après, classiquement, on est entré dans la lente assimilation du processus de deuil. Pour simplifier, mais vraiment beaucoup, voici le principe. Prenons un exemple léger. Imaginons que je vous explique que vous allez mourir dans un mois. Vous n'avez qu'à pas démonter cette pile atomique dans votre garage. Votre psyché va passer en gros par trois étapes dans l'appréhension de cette donnée. Première étape, le déni. C'est un peu la barrière de défense du cerveau. Vous dites que c'est pas possible, que je dois vous bombarder, vous faites des recherches pour savoir d'où j'ai tiré mon diplôme de médecine, vous vous rendez compte que j'ai qu'une licence de géo, tout ça, tout ça. Bon. Deuxième étape, la colère. Vous finissez par vous rendre à l'évidence et vous êtes vachement vénère. Pourquoi personne vous a jamais dit qu'une pile atomique émettait des radiations? Pourquoi c'était pas sur les notices? Vous faites un procès au constructeur, vous dites que la vie est injuste. Troisième phase, si vous avez le temps de l'atteindre, l'acceptation. Ok, bah on va de l'avant. Et vous décidez qu'avant de disparaître, vous lirez l'intégralité de la comédie humaine et ça, c'est beau. Mais ça n'a aucun rapport avec mon sujet, donc retournons à nos élections. Après un petit moment de flottement, il a fallu se rendre à l'évidence. Donald était dans la place. Restait à trouver un coupable contre qui s'emporter. Et c'est là qu'intervient le véritable sujet de ma chronique, qui se cachait entre les lignes, comme entre les murs de votre fil Facebook, nos amis les algorithmes. Nombreux sont les organes de presse qui, fort secoués par cette issue aussi imprévue que désagréable, et par ailleurs peut-être un peu blessés dans leur orgueil, nous ont fait pleuvoir des articles sur le rôle qu'avaient eu Facebook, Twitter et Google dans l'incident. Car un algorithme, ce n'est pas très éthique. Si un canular plaît bien, si une sphère d'internautes est particulièrement active, si on clique et on reclique, c'est que ça doit valoir la peine d'être promu. Et on promeut. Or, nos trumpettistes aux doigts agiles ont visiblement fort bien cliqué. Bien entendu, Mark Zuckerberg, pour ne citer que lui, s'est empressé de minimiser le rôle de sa créature. Et puis, vous me direz, Maxime, quand tu nous as présenté les choses comme si les médias l'avaient bigrement dramatisé l'affaire parce qu'il venait d'encaisser un gigantesque contre-coup de l'espèce Sum. Oui, mais à bien réfléchir, l'ampleur de ce contre-coup montre à quel point ils ont raison d'accuser les algorithmes. Pourquoi ? Parce que les algorithmes font des bulles. Plus précisément, ce que les anglo-saxons appellent des bulles de filtre. En français, peut-être plus austère, des bulles cognitives. Pour bien comprendre ce que désigne ce mot savon, il faut que vous vous demandiez ce que Facebook ou Google veulent vous montrer quand vous vous connectez sur leur site. L'exemple de Facebook est sans doute plus parlant. Imaginons que tu sois étudiant ici, à l'ENS de Lyon, et que tu es un supporter convaincu de Jean-François Copé. Bon, parmi tes amis, tu as de fortes chances d'avoir tout un tas de bobos et de gauchos qui likent des trucs sur l'accueil des migrants, voire des blagues de très mauvais goût sur les pains au chocolat. Ces publications, elles t'énervent. Tu les passes vite, tu cliques jamais dessus. Par contre, pour peu qu'apparaisse la tête éclairée de ton idole, et c'est la joie. Tu likes, tu cliques, ou même tu t'arrêtes juste pour regarder la vidéo. Rien que ça, ça suffit. En effet, pendant que tu t'adonnes à ce plaisir ô combien compréhensible, Facebook tient son chronomètre et compte les clics. Il ne va pas mettre longtemps à repérer ce qui t'énerve, ce que tu passes et ce qui paraît t'intéresser. Alors, avec élégance et célérité, l'algorithme, le fameux, soucieux d'augmenter ton bien-être et ta poséitude, veillera à faire disparaître les slogans pro-cheminade et les articles sur le coiffeur de François Hollande. Il valorisera les partages et les likes de tes amis concernant Copé ou les primaires de la droite, amis qui peuvent peut-être d'autant plus... qui seront d'autant plus représentés, on va pas s'aventurer à dire nombreux, que la petite société que tu côtoies a toutes les chances de n'être pas représentative à l'échelle du pays. Petit à petit, sur l'écran, il ne reste plus que ta propre pensée, qui ne trouve à se mettre sous la dent que ce qui peut encore la renforcer, voire la simplifier, la catégoriser, lui enlever toutes ses nuances. Le reste du monde peu à peu disparaît. Voilà, t'es dans ta bulle. Maintenant, mes amis, imaginez que vous soyez un ou une démocrate aux États-Unis. La victoire de Trump vous paraît absolument impensable. Et justement, tout ce que vous pouvez lire sur Facebook à ce sujet, et c'est peut-être votre unique canal d'information politique, vous le confirme. Sachant que c'est le cas, a priori, pour 60% des électeurs américains, d'après la BBC. Donc le Washington Post, le New York Times, par exemple, tous ces trucs-là, les trucs de suprématistes et les slogans pro-Trump, ça vous paraît de la guignolerie de bas étage, de la section 12-14 ans de Facebook, vous n'en avez jamais vu. Jamais. Vous n'en verrez jamais, d'ailleurs. Ailleurs que dans les articles qui déplorent leur ridicule. Ce que vous ne voyez pas, c'est que vous ne vivez pas dans le même monde, Internet, que des gens qui, eux, dans leur propre bulle, se sont persuadés qu'Hillary Clinton allait dévaliser les honnêtes gens au profit de ces violeurs de Mexicains, et que seule dans cette Amérique exsangue que vous ne reconnaissez plus, même si vous ne l'avez jamais connue, celle d'avant, la victoire de Trump était l'unique salut pour les honnêtes blancs, gens. L'ampleur du choc que nous avons vu au début du mois, je l'appréhende un peu comme une collision entre deux mondes, et il se trouve que la plupart des médias, l'establishment, qui était précisément la cible de Trump, sans ironie de la part de ce multimilliardaire, se trouvait dans le monde pour qui c'était aussi probable que de croiser Jean-Frédéric Poisson en caleçon à la teuf de ta copine. Ce qui, cela dit, reste plus probable que de voir Hollande à la présidence en 2017, quoique. Par les temps qui courent, s'il se fait une raie sur le côté, on ne sait pas. Encore plus pernicieux d'ailleurs, il faut bien se dire qu'avec l'omniprésence des algorithmes, la même chose peut commencer à s'observer par exemple sur Google. Il paraît que les résultats de recherche dépendent d'un utilisateur ou d'un ordinateur à un autre. Ça serait marrant de voir ce qui sort quand on tape Donald Trump ou Hillary Clinton chez Bobby, camionneur, amateur de catch et fervent démocrate, ou chez sa mère, l'adorable Mrs. Jones, terriblement républicaine. Bref, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a même pas besoin d'accuser les canulars et les fake news pour voir qu'effectivement, Internet, en tant que média principal d'information et de formation des opinions, est peut-être en train de façonner le monde politique à son image, en tout cas à l'image de l'Internet 2.0, uberisé, individualisé, sur mesure. Bien loin de l'idéal de l'agora, où tout le monde se rencontre, se frite, se gueule dessus et où on s'amuse bien, nous entrons peut-être, et à mon avis c'est une grande perte, dans l'ère de l'autosatisfaction aseptisée à grande échelle. Marchez tranquille, badaud, vous ne croiserez plus la route d'un querelleur Protagoras ou d'un Gorgias sur ce boulevard virtuel tout repeint à votre couleur préférée. Pas de panique, tout sera fait pour garantir l'optimum de votre confort, jusqu'au résultat des élections, jusqu'à ce que tout le monde, enfin, regarde la même chose. Que la bulle éclate, l'espace de quelques instants, gare au choc. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Bah, on va pas boire la ciguë, on ouvre les yeux. Je pense qu'en ces temps de chaos généralisé, mais encore plutôt tranquille tout compte fait, puisqu'on est là à discuter dans nos fauteuils, il faut qu'on soit curieux. Qu'on crève nos bulles, et puis comme ça d'ailleurs, on pourra peut-être donner un peu plus de portée à un discours qui sans ça risque fort de tourner avec nous dans notre petit bocal, pendant que les hussards bleus marines gagnent du terrain.
Merci Maxime pour ces éclaircissements sur les relations entre la politique et les réseaux sociaux, et je pense qu'évidemment on en entendra parler dans les mois qui vont venir. Et tout de suite, je vais quitter ma casquette d'animateur pour devenir chroniqueur.
Je suis scandalisé de ce que je viens d'entendre.
Je suis souple dans mes baskets.
Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre.
Je vous ai compris.
Une fois n'est pas coutume, je ne ferai pas une chronique, je ne ferai pas un éditorial, mais j'ai très, très, très envie de pousser un coup de gueule.
Ah.
Merci Rémi. Le ministère de la Santé a lancé il y a quelques semaines une campagne de prévention contre les maladies et infections sexuellement transmissibles, MST et IST, à destination des hommes homosexuels. Cette campagne se décline en une série d'affiches, colorées, montrant deux hommes, tantôt s'enlaçant, tantôt s'embrassant, avec différents messages que je vous cite. Avec un amant, avec un ami, avec un inconnu. S'aimer, s'éclater, s'oublier. Ou encore, coup de foudre, coup d'essai, coup d'un soir. Le tout avec une même conclusion. Les situations varient, les modes de protection aussi. L'affaire aurait pu en rester là. D'autant plus que, s'agissant de campagnes de prévention sanitaire, on a déjà vu plus volontairement provoquant. Mais c'était sans compter sur le zèle sans limite des militants plus ou moins proches du mouvement de la Manif pour tous, dont on nous a déjà parlé il y a quelques semaines. Tous ces militants unis dans une nouvelle croisade contre la dépravation et pour la protection de l'innocence juvénile. Ils ont bon dos, les enfants. Tout a commencé quand Louis Roncin, militant anti-mariage gay, s'est vanté sur Twitter de « nettoyer », je cite, « un panneau d'affichage proche d'une école en recouvrant le message de l'affiche de peinture blanche. Le tout avec les encouragements bienveillants de notre chère Christine Boutin. » Rappelons d'abord qu'il ne s'agit pas de nettoyage mais de dégradation de biens publics, au cas où la loi lui aurait échappé. Ça aurait pu en rester là si des maires n'avaient pas eu la bonne idée de vouloir faire retirer ces affiches à proximité des écoles, à Angers et à Aulnay-sous-Bois notamment. Ça aurait pu en rester là si la catosphère / réacosphère ne s'était pas indignée, lançant comme un seul homme « Mais qu'est-ce qu'on va dire aux enfants ?» Ça aurait pu en rester là si la fachosphère n'avait pas fait circuler des fausses affiches, montrant, au lieu des gentilles embrassades, des scènes de sexe explicites probablement tirées de films pornographiques, pour les faire passer pour des affiches officielles. Militantisme homosexuel, incitation à l'homosexualité, homophobie latente de ces affiches qui considèrent les homos comme des bêtes libidineuses, incitation à l'adultère et à la débauche, etc. Voici ce qu'on a pu entendre à leur sujet. Je tiens à rappeler aux nostalgiques de l'ordre moral que le but des politiques de santé publique n'est pas de prescrire une forme de sexualité idéale, de préférence hétérosexuelle et monogame, si j'ai bien compris, mais d'agir intelligemment pour la sécurité sanitaire de tous les citoyens, indépendamment de leurs pratiques sexuelles. Et elles sont multiples, qu'on le veuille ou non. Ceux qui vocifèrent contre la décadence des mœurs feraient mieux de regarder les autres affiches publicitaires présentes partout dans nos villes et qui pullulent ça et là. Ces affiches où on voit que les femmes sont bien souvent réduites au statut d'objet sexuel. Et ce sont ces affiches qui posent véritablement la question, mais que doit-on dire aux enfants ? Il est facile d'ouvrir les yeux quand cela arrange nos convictions, beaucoup moins quand c'est l'inverse. Les homosexuels existent, et il n'y a pas une seule façon de vivre sa sexualité. L'important, c'est de minimiser les risques, encore trop importants, liés au MST. Bref, à tous les politiques qui s'offusquent que ne vous trompez pas de combat et prenez vos responsabilités d'agent public, non d'idéologue militant. À une période où certains candidats à l'élection présidentielle considèrent que l'avortement n'est pas un droit fondamental, je cite, et suivez mon regard, où la voix d'organisations comme la Manif pour tous, ou la Fondation Le Jeune, ou Sens Commun, le mouvement politique affilié aux Républicains, à ce moment où ces voix se font de plus en plus entendre sur les questions de sexualité, de genre, de contraception, de droit à disposer de son corps, et créant ainsi sur ces questions un climat on ne peut plus anxiogène, il ne faut pas rester muet ni considérer naïvement que des droits sont inaliénables, que le respect va de soi ou que ces combats sont datés, inactuels, vieillots. Certains veulent une France thatchérienne. Et je rappellerai en conclusion qu'il n'y a jamais eu plus combatif et revendicatif que les années Thatcher. La Manif pour tous ne lâche rien ? Eh bien, moi, je ne tendrai pas l'autre joue. Bon, j'ai fini de pousser ma gueulante. Et tout de suite, je me tourne vers Rémi, qui, me semble-t-il, a quelque chose de très, très important à nous dire. Et je tarde d'entendre son humeur du jour. Et je crois que celle-ci a à voir avec un événement qui est arrivé dimanche, en soirée, et qui a fait parler de lui, mais je n'en sais pas plus.
Bonjour, eh bien, Rémi. Bien, figure-toi que oui, bonjour Mathias, tu tombes dans le mille, je vais à nouveau parler de l'élection présidentielle.
Le billet de Rémi, dans tous politiques,
le billet de Rémi,
sur Transistor.
Dans tous politiques, sur Transistor.
Eh bien, ça va bien mieux que la semaine dernière, dis donc.
Ah là là. Ah, je suis content parce que la semaine dernière, j'avais vraiment peur.
Ah ouais, non, alors ça va sacrément mieux. Et je m'étais complètement trempé, les gars. Mais alors, zéro sur toute la ligne. Je vous avais dit, ouais, alors du coup, vous avez le choix entre 70 kilos de plis et d'incontinence bientôt bon pour l'écarisseur et 60 centimètres de mauvaise foi avec plein de papiers du tribunal dessous pour qu'on puisse voir la tête au-dessus du pupitre. Eh ben non, non. Non, complètement trompé. Moi, j'avais baissé les bras trop tôt, je m'étais dit, ouais, tout ça, c'est nul, présidentiel, on s'en fout. Pas du tout, hein. Alors, les présidentielles, on s'en fout pas. Maintenant qu'on a un homme probe et fort au pouvoir. Non, c'est vraiment génial. Attendez, on cherchait la solution, tout ça. Eh ben, elle arrive tout de suite, là. C'est fini, tous nos problèmes, fini. La gouvernance tellement molle que la dernière fois que j'ai vu une fiente de pigeon sur le siège d'un scooter, j'ai chanté la Marseillaise. Fini les connards de gauchos qui pensent qu'à occuper des places sous prétexte qu'ils ont l'intention de manger, alors qu'il y a plein de caca tout chaud avec des restes de bœuf bourguignon dans les toilettes de l'Assemblée nationale. Fini le terrorisme, qui, certes, tue des arabes, mais pas que. Et puis fini les pédales qui s'affichent sous l'œil pur de nos enfants, à qui on a déjà bien du mal à apprendre à ne pas laisser leur zizi à la portée du premier prêtre venu. Alors, ça y est, c'est officiel, Fillon est dans la place. C'est pas fantastique ça quand même, c'est génial, voilà... Française, français de tous les pays, c'est fantastique. Allez, garde à vous. Formez vos bataillons. Marchons, marchons. Qu'un sang impur abreuve nos fillons. Ouais, ça fait du bien quand même, hein. Et la France a droit à un grand homme par siècle. On commençait à se languir depuis 1940, quand même, hein, c'est... Alors, d'ailleurs, du coup, pour montrer que comme l'euphorie traverse le pays, j'ai qu'une réaction à vous citer. Donc, deux points, ouvrez les guillemets, sortant de l'ombre, la résistance s'est dressée, c'est elle qui nous invite aujourd'hui à reprendre le flambeau. Nous avons eu 2000 ans d'épopée derrière nous, et nous allons faire en sorte que cette épopée ne s'arrête pas maintenant. Voilà, c'était François Fillon, donc, sur son élection à la présidence de la République. Non, on va vraiment se marrer, enfin, ça va être super cool. Et du coup, je me suis renseigné un peu sur le personnage et j'ai commencé par les tweets. C'est super pratique pour connaître les gens, genre pour fêter mon dernier anniversaire, Nadine Morano écrivait par exemple « Je suis en super forme et en ce début d'année, il faut éliminer les toxines, alors au réveil, une tasse d'eau tiède avec du citron pressé. » Du coup, ça nous confirme un peu ce qu'on savait de ses idées politiques. Et du côté de François Fillon, eh bien, il dit par exemple « Je veux être le président qui travaille pour les Français. » Je veux être un président intraitable, je veux être un président intransigeant, enfin plein de tweets super puissants comme ça qui me rappellent quelque chose, moi.
Un état impartial, un état vigoureux, un état exigeant, un état je serai le président de tous les Français.
Bon, à part ça, deux documents précieux nous sont parvenus, le bulletin scolaire du petit François quand il était au lycée, et puis la réjouissante pile d'articles listant son programme que je vais analyser ici pour la France pendue à mes mots. Alors on commence avec la suppression de 500 000 emplois publics, revenir sur les 35 heures, également rehausser l'âge de la retraite, tout ça dans le but d'arriver au plein emploi. Je vous explique le principe, tout le monde travaille plus longtemps et à la fin il y a quand même plus de boulot, voilà. Faut vraiment avoir le quotient intellectuel de l'intestin de Nadine Moreno avec ou sans jus de citron pour accoucher d'un étron qui traîne avec lui une telle odeur de stupidité. Mais bon, à part ça, on augmente la TVA de 2% pour revaloriser le pouvoir d'achat des Français, alors... Rendez-vous compte, le pain au chocolat va passer à 16 centimes. Enfin, comment vous voulez que le pays que la famine ne sévisse pas à travers tout le pays? Mais heureusement, pour lutter contre le chômage et la faim, Fillon a des copains. On enverra les pauvres en Syrie et en Russie et on appellera ça le STO. Ça sera la folie. Ouais. À part ça, autre mesure très importante, supprimer les allocations familiales aux parents d'élèves absentéistes. Et c'est pour ça que je voulais citer son bulletin scolaire qui disait à l'époque. Admis en classe supérieure de justesse, en continuant ainsi, François est sûr de l'échec. Finalement, c'est peut-être ce qu'on lui souhaite.
Mais avait-il des parents qui touchaient les allocations familiales?
Ça, c'est une question,
oui. Est-ce qu'il y avait besoin des allocations
familiales? C'est peut-être pas tout à fait certain. Enfin, donc, comme je disais, on lui souhaite finalement cet échec annoncé il y a si longtemps, parce que le dernier point, supprimer le principe de précaution concernant l'environnement de la Constitution, c'est pas mal aussi pour rajouter à la boue déversée à longueur de campagne dans le débat politique, plein de cochonceté dans l'air qu'on respire et la bouffe qu'on mange et tout, et tout, et tout. Enfin, finalement, on arrivera à un super joli pays rangé par le cancer du poumon et les leucémies. Entre nous, l'homosexualité, c'était quand même mieux comme maladie, ça touche moins de monde. Alors oui, un sang impur va les abreuver, nos Fillons, parce que je sais pas si vous le sentez déjà approcher, mais il y a une espèce de coquin ranchon avec une raie sur la tête et de l'extrême droite dedans qui va essayer de vous y mettre. Bachar el-Assad, la fin du mariage pour tous, plein d'impôts, le chômage et l'interdiction d'être chômeur, un désastre écologique, plein de migrants refusés aux frontières et tous les objets contondants qu'on regroupe sous le terme de « bonne grosse droite ». Bon allez, on se revoit dans 5 ans, hein.
Merci beaucoup Rémi, je vois que tu as repris du poil de la bête.
Ah, ça fait du bien là. Je sens que cette année est bien partie, quoi.
Ah, c'est bon, on est parti pour 6 mois de bonne humeur. Et
la France est sur le bon chemin.
Parfait. C'est sur ces mots réjouissants, ce peps et cette joie de vivre que je conclue cette émission et ce troisième numéro de Tous Politiques. À vous qui nous avez écoutés, je vous dis à très bientôt sur Transistor et en attendant, restez avec nous.
Fais les valises, on rentre à Paris.
C'est la réforme, oui, la chienlit, non.
Tonton, veille sur vous.
Je vous demande de vous arrêter. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions.
Au revoir.